Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 7 décembre 2017. Monique Kirouac au micro et avec moi en studio, Yvan
Deslauriers.
Bonjour Yvan.
Bonjour Monique.
C'est parce que je voulais que tu donnes justement ton nom de famille, tu vois.
Okay.
Et Marie.
Lalande.
Alors d'abord Marie, félicitations parce qu'il faut dire que Marie a reçu le prix Raymond Charette pour la radio.
Merci.
Alors on est vraiment fiers de te compter parmi nous.
D'y être vraiment
bon. Oui. Et on n'oublie pas Mathieu, bien sûr, de l'autre côté de la console, qui est le maître du choix des choix musicaux, vraiment, toujours très pertinent. Alors, Marie?
Oui?
Les sujets que tu abordes aujourd'hui?
Bon, on est au début décembre, on a la permission, je vous parle de Noël.
Ouais. Oui.
Alors, je vous parle d'achat de jouets, des conseils pour acheter des jouets pertinents qui conviennent aux enfants. Et je vous parle d'un projet formidable de conte de Noël, comme un conte de l'Avent.
Oui, voilà. Très intéressant, très original. Yvan?
Moi, dans mes deux cas aujourd'hui, je vous parle de l'utilisation du temps et de gens qui trouvent des façons d'étirer leur journée.
Bon, alors, il crée, encore une fois, le suspense.
Oui, oui,
toujours,
c'est
toujours.
Ça,
et vous, Monique?
Alors, moi, le premier article traite des frissons que l'on peut provoquer à l'écoute de la musique et comment l'expérience pourrait s'appliquer, entre autres, à la maladie de Parkinson. Mm-hmm. Et le second article présente les défis que posent les Jeux olympiques de Paris en 2024 sur le plan vert, durable, sain et tout ça. Ah, bonne émission! Alors Marie, les jouets, comment fait-on le choix de ces jouets?
Oui, parce qu'on les achète, hein? L'achat de jouets, c'est le titre de l'article. Et donc, on se concentre sur les jouets qu'on peut acheter aux tout-petits, donc les 5 ans et moins. C'est un texte de l'équipe de Naître et Grandir et de Josiane Caron, Santa, qui est ergothérapeute, et ça a été publié sur le site naître-et-grandir.com en octobre dernier. J'avoue que j'ai alléger le texte parce qu'il était beaucoup trop long, mais je vous en présente l'essentiel. L'enfant aime jouer, c'est naturel pour lui. Il en a besoin pour s'amuser, apprendre, explorer et bien se développer. Parmi la multitude de jouets offerts en magasin, il n'est toutefois pas toujours facile de faire un choix. Voici donc les éléments et les critères à prendre en considération lors de l'achat d'un jouet. D'abord, premier critère, le plaisir qu'apportera ce jouet, parce que le plaisir est essentiel au jeu. On le rappelle.
On ne s'en doutait pas.
Je le rappelle, moi, parce que des fois, ça se perd en chemin,
c'est vrai.
Moi, je pensais que le critère, c'était le plaisir du papa.
Non, pas seulement.
Ah bon.
Ensuite, la sécurité du jouet, parce que certains jouets, c'est connu, sont à éviter avant l'âge de 3 ans, particulièrement. Pour en savoir plus sur la sécurité des jouets, on peut consulter la fiche « Jouets pour s'amuser en toute sécurité » qui est disponible également sur le site naître-et-grandir.com. Ensuite, on va considérer le stade de développement de l'enfant. En effet, pour être intéressant, le jouet doit représenter un défi pour l'enfant tout en restant réalisable. Trop facile, le tout petit le trouvera ennuyant. Trop complexe, il peut devenir une source de frustration. Et l'enfant risque de ne plus l'utiliser, et ce même lorsqu'il aura les habiletés nécessaires. On va considérer aussi la polyvalence du jouet. Les jouets avec lesquels il est possible de jouer de différentes manières intéressent souvent l'enfant pendant plus longtemps, parce qu'ils lui permettent de prendre part activement au jeu. À l'inverse, les jouets qui ne proposent qu'une seule activité n'amusent généralement pas les tout-petits très longtemps. Les blocs sont un bon exemple de jouets polyvalents. En effet, le tout-petit peut, au début, les prendre et les lancer.
Oh, pas l'air!
Oui. Par la suite, il peut faire tomber les tours de blocs que vous avez faites plus tard, et plus tard, il construira ses propres tours. Et plus vieux, il peut créer des constructions plus complexes avec ses blocs. On va considérer aussi la simplicité. Le jouet doit aussi être facile à utiliser parce que même si l'enfant aime beaucoup jouer avec ses parents, il doit pouvoir s'amuser avec le jouet sans devoir toujours être aidé. Le prix est un facteur à prendre en considération. Il est généralement possible de trouver des jouets qui conviennent au budget fixé tout en tenant compte des critères mentionnés précédemment. Par ailleurs, les jouets qui coûtent cher ne sont pas toujours les plus intéressants. C'est souvent le cas des jouets qui mettent en vedette le personnage d'un film populaire, car la mode influe souvent sur les prix. Et les jouets éducatifs sont aussi généralement plus chers. Parlant de jouets éducatifs, est-ce qu'ils sont nécessaires? Ah, bonne question.
Mm-hmm.
Même s'ils peuvent être intéressants, Yvan, pour
revenir,
nous...
Revenir au critère numéro un.
Le plaisir.
Le plaisir.
Voilà, j'attendais que
le papa.
C'est ça. Il y avait un lien à faire ici. Merci. Alors, même s'ils peuvent être intéressants, les jouets éducatifs ne sont pas essentiels pour l'enfant qui se développe bien. Ses activités quotidiennes assurent son développement global. Par exemple, sa motricité fine, donc les petits gestes là, qu'on peut faire avec les doigts, se développe lorsqu'il utilise une cuillère et lorsqu'il met ses bas, par exemple. De même, son langage se développe lors des interactions avec ses parents et les gens qui l'entourent. Le simple fait de chercher un jouet dans son coffre à jouets développe aussi son sens de l'observation. Lorsque l'enfant peut s'amuser comme il le veut avec un jouet, il a du plaisir en plus d'avoir la possibilité de faire des apprentissages. Et en ce sens, tous les jouets ont donc un potentiel éducatif. Est-ce qu'on peut se fier aux indications d'âge sur les emballages? Oui, mais sachez que ces indications sont davantage liées à la sécurité. Il faut faire appel à votre jugement ou se faire conseiller pour choisir un jouet qui convient aux capacités de votre enfant. Là, ici, c'est curieux parce que dans mon texte, ici, il me manque toute une section. Alors, on est désolé, on voudrait bien vous la présenter. C'est quel jouet pour quel âge? Il y avait les jouets qu'on peut offrir aux enfants de 0. Et mon Dieu, que Monique est une mine d'or. Elle a imprimé le tout. Alors, on s'excuse pour le bruit des pages. Et on va trouver, voilà, quel jouet pour quel âge. La semaine passée, je me suis étouffée.
Oui.
Cette semaine, j'ai perdu mon texte. Ça va très bien la faire.
La semaine prochaine,
mais Monique est toujours là.
La semaine prochaine, j'anime et Monique est toujours là.
Elle a une pastille, elle a le texte.
Mon Dieu. Qu'est-ce qui manque, là?
De 0 à 1. Donc, le bébé s'intéresse aux jouets qui stimulent ses sens et qui le font bouger. Il apprécie, par exemple, les hochets, les tapis d'éveil, les ballons, les toutous, les boîtes à musique. De 1 à 3 ans, les enfants sont de plus en plus habiles avec leurs deux mains. L'enfant aime classer, aligner, empiler. Il commence à jouer à faire semblant aussi. Il est heureux, entre autres, de jouer avec des blocs, des instruments de musique, des jeux de construction, d'assemblage comme les casse-têtes, la pâte à modeler. Il aime aussi les jouets qui permettent d'imiter les grands, comme les services de vaisselle, les outils, les voitures, les camions, les trousses de médecins. De 3 à 5 ans, l'enfant fait beaucoup appel à son imagination dans les jeux. Il s'invente des histoires, il aime les jeux de rôle. Il apprécie notamment les jeux de construction, les figurines, les déguisements, les marionnettes, les poupées, les jeux d'imagination et les accessoires de bricolage. Et à partir de 5 ans, il peut s'amuser avec les jouets qui demandent plus d'attention et qui comportent des règles, comme les jeux de société, et c'est très intéressant socialement. Ce qui est donc le plus éducatif pour le tout-petit, c'est de varier les activités ou les jeux. Donc, l'enfant n'a pas nécessairement besoin de jouets en particulier, mais il a besoin de jouer dans la maison, dehors, avec d'autres enfants, de faire de bricolage, d'écouter de la musique, de danser, de lire une histoire. Donc, plus que le jouet lui-même, c'est le contexte de jeu qui permet à votre enfant de faire des apprentissages. Vous pouvez quand même vous assurer que votre tout-petit a une variété de jouets. Avant de l'acheter, vous pouvez vous demander ce que stimule ce jouet et ce qu'il apporte de nouveau à votre enfant. Alors voilà, merci Monique et merci l'équipe de naitreetgrandir.com. On peut trouver le texte complet sur leur site. Merci beaucoup.
Merci Marie. Thank you. Alors, c'est à mon tour. Un article de Philippe Mercure de la Presse Plus du 21 novembre dernier qui s'intitule « Amplifier l'amour de la musique en laboratoire ». On avait déjà provoqué le coup de foudre.
Le sentiment amoureux.
Ouais. Le sentiment amoureux. Alors là, ça va être la musique qui nous donne des frissons. Alors, chair de poule, émotions de toutes sortes, envie irrépressible de l'écouter en boucle. Une bonne pièce musicale peut procurer un plaisir intense. Or, des chercheurs montréalais viennent de montrer qu'on peut moduler ce plaisir comme on ajuste le volume d'une chaîne stéréo. Leur truc, c'est toucher les circuits électriques du cerveau avec des champs magnétiques, en quelque sorte une décharge électrique. C'est la grande découverte de l'étude qui est publiée dans Nature Human Behavior. On peut manipuler le cerveau de façon à intensifier ou atténuer le plaisir musical. Pour ça, l'équipe de Robert Zatori, professeur de neurologie et de neurochirurgie à l'Institut et l'Hôpital neurologique de Montréal, qui est rattaché à l'Université McGill, a utilisé la stimulation magnétique transcrânienne, le SMT. Alors, la technique consiste à stimuler ou inhiber, c'est-à-dire ralentir, l'activité de certaines zones du cerveau en leur envoyant un champ magnétique, comme je disais tout à l'heure, de l'électricité, en stimulant ainsi une zone appelée cortex préfrontal dorsolatéral gauche. On ne répétera pas ça sans le voir.
Est-ce qu'il y a un acronyme?
Non, pas cette fois. Alors, et ce, chez 17 participants. Les chercheurs ont fait augmenter le plaisir qu'ils ressentent en écoutant de la musique. En inhibant, c'est-à-dire, comme je disais, en ralentissant l'activité de la même zone, leur plaisir diminuait. Les scientifiques ont utilisé 3 mesures pour évaluer l'extase musicale de leurs participants. D'abord, ils leur ont demandé de noter leur plaisir sur une échelle de 1 à 4, 1 étant le neutre et le 4 frisson. Puis, ils ont mesuré l'activité électrique à la surface de la peau. Alors, on peut imaginer la chair de poule, par exemple, un indicateur des émotions ressenties. Et enfin, par un système d'encan, ils ont évalué le prix que les participants étaient prêts à payer pour les pièces musicales écoutées. Ouais. Alors, les 3 mesures vont dans la même direction. Alors, c'est important et ça montre que ce n'est pas l'effet du hasard, dit Robert Zatori. Fait intéressant, le truc fonctionne autant avec les pièces préférées des participants que celles qui leur étaient imposées par les chercheurs. Donc, l'expérience vient rappeler que notre cerveau est une machine électrique avec laquelle on peut interagir. Donc, en excitant les circuits frontaux, le cerveau produit plus de dopamine, qui est un neurotransmetteur lié au plaisir. En atténuant, au contraire, l'activité des mêmes circuits, le niveau de dopamine tombe et la musique génère moins d'effets. Alors, jusqu'où peut-on pousser ainsi la jouissance provoquée par la musique? Alors, le professeur Zatori nous dit que c'est une bonne question. Une fois que les neurones dopaminergiques ont exprimé toute leur dopamine. Alors, vous ne saviez pas qu'elles pouvaient parler, n'est-ce pas, ces neurones? Ben oui, elles expriment leur dopamine. Ils supposent que l'augmentation du plaisir va arrêter et qu'il y aura un plafond. Et si le plaisir musical qui a été étudié, le mécanisme pourrait sans doute moduler aussi le plaisir lié à la nourriture, au sexe, à l'art visuel ou à n'importe quel autre stimulus. Donc, il n'y a aucune raison de penser que c'est spécifique à la musique. Alors, peut-on rêver de casques à stimulation magnétique qui amplifieraient autant son expérience musicale...
Ou une télécommande.
C'est ça, que nos orgasmes. Robert Zatori, sans nier que de telles possibilités puissent un jour apparaître, avoue que d'autres priorités sont les siennes. Sa prochaine mission... étudier si la stimulation magnétique transcrânienne peut aider les patients atteints de la maladie de Parkinson. C'est qu'en plus de provoquer des problèmes moteurs, la maladie atténue souvent le système de récompense du cerveau. Les patients ressentent alors moins de plaisir à faire ce qu'ils aiment et ils finissent par souffrir de dépression à cause de l'apathie. À l'inverse, atténuer le même système de récompense chez les gens chez qui il est surstimulé pourrait peut-être un jour aider à traiter d'autres sortes de dépendances, toutes sortes en fait de dépendances.
Des maladies comme la bipolarité, quelque chose
peut-être
comme ça.
Peut-être aussi. Contrairement au plaisir lié à la nourriture et au sexe, celui qui est déclenché par la musique ne joue pas de rôle évident dans la survie de l'espèce. Les scientifiques, dont Robert Zatorre, en ont toutefois décortiqué les mécanismes et ils ont montré qu'une séquence musicale pousse le cerveau à anticiper ce qui suivra, ce qui est quand même très important dans notre vie de tous les jours. Donc, la surprise et la réalisation de nos attentes créent ensuite un jeu qui génère du plaisir. On peut facilement imaginer que le fait de pouvoir prédire est important pour la survie. Est-ce que je vais avoir mon animal à la bonne place pour, ou le bon légume? Il est possible que la musique soit donc un jeu dont le rôle est d'entraîner ces mécanismes de prédiction. Fait intéressant, en terminant, c'est que, comme je feuillette beaucoup de revues scientifiques, dans la revue française « Science et vie », du mois d'août, intitulée « Pourquoi une musique donne-t-elle le frisson? » Eh bien, on évoquait cette recherche du professeur Zatorre. Donc, ça circule à travers le monde, toutes ces belles recherches. C'était donc un article de Philippe Mercure, de la Presse Plus, du 21 novembre dernier.
Oui, puis ça nous fait penser à vaguement Orange Mécanique.
Ah, moi, j'avais plus... je suis associé avec le garage à musique du docteur Julien. Puis l'idée de base, c'est que quand un enfant apprend la musique, il est peut-être plus apte aussi à maîtriser d'autres formes d'apprentissage.
Voilà, la prédiction. Oui. Alors, voilà.
Ma musique, c'est un rire. Une présence, une voix, un silence qui dit je t'aime. Ma musique vient de toi, ma lumière, c'est un geste. Une caresse dans le noir qui s'appelle la tendresse. Ma lumière, c'est ton regard. Ma prière, c'est l'absence. La colère et le froid dans ma chambre solitaire. Ma prière va vers toi.
Alors, Yvan, un de tes secrets, Sur le temps.
Ah, sur le temps. J'ai eu une hésitation.
Mais je voulais pas
c'est correct.
T'enlever le punch.
Oui. Alors, un des deux articles d'aujourd'hui qui va, où on va utiliser le temps d'une façon différente ou à une autre heure. Dans cet article, « Dans l'eau avec les maîtres nageurs », Véronique Champagne du Journal de Montréal, qui écrit le 29 novembre 2017, nous raconte son expérience avec le club des maîtres nageurs. Il est 5h30 du matin. Le mât du stade olympique se dresse devant moi. Quelques silhouettes se découpent dans la noirceur du petit matin, marchant d'un pas décidé vers le centre sportif. On ne se retrouve pas ici par hasard. On se retrouve ici, après s'être réveillé très tôt et avoir quitté une maison chaude et endormie, thermos de café en main. À l'intérieur du stade, une dizaine de nageurs socialisent, tout sourire, dans la lumière affirmée des fluorescents du stade nouvellement rénové. On entre dans un autre monde. François, Alexandre, Marius et André nagent ensemble ici depuis 25 ans. Ils sont quatre de la trentaine de sportifs motivés qui s'entraînent deux ou trois fois par semaine dès 6 heures avec le club des maîtres nageurs de Neptune Natation. Je me suis levé à 4h30 ce matin à cause de la petite neige, me dit Marius. Je devrais changer mon accent, mais oui, je ne suis pas capable. me dit Marius, 63 ans, le nouveau retraité installé à Chersey, dans les Laurentides, dans la Naudière, fait le voyage pour retrouver son groupe de nageurs trois fois par semaine, 12 mois par année. Le nageur est de retour à la maison alors que la journée débute pour la majorité. On ne dérange personne en nageant aussitôt. Tout le monde dort, me précise Marius. C'est ce que bien des nageurs me répéteront comme raison de sauter dans l'eau aussitôt un lundi matin.
J'ai des frissons.
Oui.
Ne pas déranger et se pousser à fond dans un contexte social agréable. C'est ma thérapie dans l'eau, me dit Julie, qui profite du silence des profondeurs pour réfléchir et décrocher. Dans les premiers corridors, il y a Alexandre, triathlète depuis 20 ans. Mylène, qui participe à des compétitions de natation en visant le podium, et Marius, dont la retraite n'est pas une excuse pour ralentir. Je rencontre aussi Vali, qui s'est rabattu sur la natation, plus doux pour le corps que la course. Alain, qui préfère partir avant l'aube de Boucherville et s'entraîner plutôt que de combattre le trafic un peu plus tard. Lynn et Luc, qui nagent ensemble depuis des décennies après s'être rencontrés au maître. Nathalie, qui a choisi de passer des estrades à l'eau, tant qu'à faire, en accompagnant son beau-fils à ses entraînements compétitifs. Et Jérôme, qui considère que de se coucher tôt est son véritable défi.
Oui, parce que tu te lèves à 4h30 du matin.
Ben ça, c'est celui de Chersey, par exemple.
Mais trois fois par semaine.
Oui, trois fois par semaine, être à 6h dans la piscine, quand même.
Des nageurs de tous âges, de tous niveaux, de tout parcours, dont le chemin ne se serait peut-être jamais croisé ailleurs que dans ces allers-retours dans l'eau. Ici, on est tous et que des nageurs. Benoît Grenier, l'entraîneur en chef, nous présente l'entraînement par bloc. Les nageurs sont répartis par corridor selon leur vitesse de croisière. Je me place dans le moins rapide. Dans mon cas, s'arrêter dans les estrades. Retrouvant timidement mes repères dans l'eau après une pause de 4 ans. Le souffle trouve son rythme tranquillement alors que tout le corps tente de se rallier pour flotter et progresser. Au fond de l'eau, la ligne noire qu'on fixe, les pensées vagabondantes ou endormies pendant que le corps adopte une cadence méditative. Je prends plus de pauses que les autres et reçois des encouragements en retour. Certains nagent plus de 3000 mètres pendant la séance. J'ai toujours trouvé ça drôle, 3000 mètres, parce que c'est 3 km en fait. D'autres entre 1500 et 2000 mètres, explique Benoît Grenier. J'en ferai à peine 1000. Je partagerai toutefois la même douce fatigue musculaire et le sourire satisfait des autres nageurs. Après une douche rapide, à 7h45, je prends le relais du conjoint, accueilli par mes deux jeunes enfants aux cheveux toujours en bataille, pratiquement ni vu ni connu. J'entame la préparation pré-garderie, mon entraînement au petit matin, comme un doux secret dont les bienfaits ne seront pas gardés que pour moi. Il me semble que le café n'a jamais été aussi bon. Tout le monde a des capacités pour apprendre à nager, résume John McLeod, qui assure le côté social et le côté fun sont au cœur du programme des maîtres. Cela ne veut pas dire qu'on ne nage pas sérieusement. Les entraînements sont intensifs, mais leur ambiance détendue. J'évaluerai environ 10 à 15 les nageurs qui choisissent de faire des compétitions, nous dit l'entraîneur. Qu'est-ce qui fait un bon nageur? C'est de la pratique, beaucoup de pratique. La constance en soi est la clé. Et l'effet de groupe aide énormément à se motiver, à se rendre nager coûte que coûte. « Ça serait impossible de nager autant seul », m'avait partagé Jérôme. Plus d'une fois, François a quant à lui pensé à ses comparses qui allaient l'attendre quand l'appel du lit était trop fort. Vali partage, partage qu'on se taquine doucement entre nageurs lorsqu'un d'eux brille par son absence. Avant de se joindre à un club de maîtres, il faut être capable de nager environ 100 à 300 mètres en crawl. Et il y a beaucoup de clubs comme celui de Neptune Natation au Stade Olympique qui offrent des semaines d'essai avant l'inscription. Et il y avait dans l'article plusieurs sites Internet pour s'inscrire ou avoir des informations. C'était dans l'article « Dans l'eau avec les maîtres nageurs » de Véronique Champagne.
Merci beaucoup, Yvan. Alors, Marie?
Oui, c'est la période, on en a parlé, de l'achat des cadeaux pour les petits. Le site tatribu.com nous offre des suggestions utiles dans un numéro spécial publié en novembre dernier, signé Sarah Poulin-Chartrand. Mm. Plein de bonnes idées cadeaux, des jeux de société, des jeux de construction, des jeux en solo, de la lecture. On peut trouver ça facilement sur le site tatribu.com.
De mon côté, programmation hiver 2018 du Sport pour moi, ça c'est avec l'Association sportive pour les aveugles. Sport pour moi à Montréal et à Québec, volet initiation pour s'initier au ski de fond, à la raquette, au patin ou au judo. Vous allez sur le site de l'association, les inscriptions sont maintenant jusqu'au début du mois de janvier. Alors, c'est vraiment des activités très intéressantes, autant pour l'initiation que le côté social, et on commence pas à 6h30 du matin.
Merci beaucoup, Yvan. Alors, Voix de service magazine se poursuit après la pause, avec Marie, Yvan et moi-même, bien sûr, et des articles sur les contes de Noël, gestion du temps et les Jeux olympiques.
Moi, je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées, je les raconte à ma manière. Mais tout seul, je peux pas les inventer, car du fond de mon cœur, c'est vous qui parlez. Je suis poète à mes heures, mais surtout, je sais vous. Parler de tout au long de mes rêves. Où chaque fois que je m'arrête à penser, on me parle à l'oreille du courage, de tout ce qu'il faudrait changer. Mais de l'autre, j'entends qu'on préfère rester dans son coin. C'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air. Que c'est que je vais chanter si on s'y laisse aller? Arrêtez pas de souffler. on me dit qu'à l'orage, il n'y a rien que le vent qui pouvait tout faire passer. Et du fond de mon cœur, je vous entends souffler, même si le vent peut faire peur.
Paul Piché qui nous chantait sa chanson « Moi, 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 je raconte des histoires
». Alors Marie, un conte de Noël des plus originales.
Oui, c'est un conte de Noël raconté de jour en jour, de maison en maison. C'est un texte de Sylvia Galipeau, publié dans la presse le 2 décembre dernier. Oubliez le calendrier de l'Avent, voici le conte de Noël de l'Avent, pour patienter dans la magie jusqu'au 24. En famille, et avec tous les amis du quartier, par-dessus le marché. Qui est le vrai Père Noël n'est pas un conte comme les autres. Un peu folle, évidemment fantastique, et surtout volontairement rassembleuse, cette histoire inédite de faux Père Noël et de lutins coquins, de l'auteur jeunesse Valérie Fontaine, est divisée en 23 chapitres à découvrir en 23 jours. Mm-hmm. Parce que le 24... tout le monde risque d'être occupé ailleurs. Mais surtout, dans 23 lieux différents. Pas n'importe lesquels, chez les voisins du quartier qui se seront portés volontaires pour sauter dans le bain de cette réunion quotidienne des fêtes, un brin improvisé. Décorations, chocolat chaud et musique de Noël optionnelles. Et tout ça se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu, depuis vendredi dernier, le 1er décembre, évidemment, très exactement. Concrètement, les enfants et leurs parents se déplaceront donc dans leur quartier tout au long du mois, de maison en maison, qui ne seront révélées que le matin même, par l'entremise d'un groupe Facebook, entre autres, pour poursuivre la lecture du fameux conte. Sympathique, vous dites?
Mm-hmm.
On savait déjà que Valérie Fontaine, en tout cas, ben, peut-être que vous ne le saviez pas, moi je le savais. Valérie Fontaine, on savait qu'elle carburait à la nostalgie et que son amour de la lecture était des plus communicatifs. C'est à cette jeune mère de famille que l'on doit en effet une heure du conte sur Facebook Live. C'est un rendez-vous hebdomadaire à la Fanfreluche, mais version 2.0. L'auteur d'Opération Gadou et des 1000 enfants de Monsieur et Madame Chose ne le cachent pas. Je veux rassembler les gens. Je trouve que c'est important. Oui, on a les médias sociaux, mais les gens sont seuls. On a des vies de fous et il est rare qu'on prenne le temps d'être ensemble. Mais c'est ça, le temps des fêtes, dit-elle. D'où l'idée, Noël oblige, d'un conte à savourer à petite dose en rameutant tout son quartier. L'auteur avoue candidement qu'elle voulait à l'origine publier une histoire de Noël, mais que son éditeur n'a pas embarqué. On le salue. Par hasard, elle est tombée sur une vidéo il y a quelques semaines à peine, relatant une initiative de l'artiste Patsy Van Roost, qui est surnommée la fille du Mile End. Cette personne est formidable, elle fait l'objet d'un reportage.
Elle fait des petits messages.
Oui, oui. Vraiment. Elle mérite bien son surnom de fille du Mile End.
Oui.
Donc, elle a mis sur pied un projet similaire il y a quelques années à Montréal. L'idée, de par son côté humain et vrai, a immédiatement interpellé Mme Fontaine. Et elle s'est dit, tiens, moi aussi je pourrais faire ça. Un appel à tous plus tard, et elle avait ses 23 complices pour partager avec elle son conte de l'Avent. Une amie graphiste, Mika, et une réviseure, Cynthia Brunet, se sont également aussitôt impliquées. Et c'est chez Valérie Fontaine elle-même que l'aventure a débuté en soirée, le 1er décembre, avec des biscuits de Noël et de la musique traditionnelle en prime. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ailleurs au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, même en France et en Belgique, plusieurs personnes se sont montrées intéressées à embarquer dans cette aventure littéraire à leur manière. Pendant sa fameuse heure du conte sur sa page Facebook qu'elle fait de manière hebdomadaire, l'auteur a en effet fait la promotion de son concept et proposé d'offrir, oui, gratuitement, son histoire à tous ceux qui proposeraient un projet rassembleur à leur tour. 200 personnes m'ont proposé des projets, s'émerveille-t-elle, citant notamment le cas d'un directeur d'école qui devrait lire chaque jour un chapitre à ses élèves. C'est rare qu'un directeur lise des histoires. L'idée, c'est d'avoir du plaisir à lire, résume Valérie Fontaine. Montrer que ça n'est pas compliqué, que ça amène de bons moments ensemble, et c'est sa façon de rendre le monde plus beau. L'adresse de la page Facebook de Valérie Fontaine, auteur. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous recherchez Valérie Fontaine, auteur. C'est facile à trouver et on peut la suivre sur ce site-là. Et c'est ce que je vous ai lu, un texte de Sylvia Galipeau qui était publié dans la Presse Plus.
Merci, c'est vraiment extraordinaire comme initiative. Oui. Alors, Yvan, encore une fois, le temps.
Une question.
Le temps.
Oui, un article sur le temps. C'était dans le carnet d'Endorphine d'hier. Et ça s'intitule « Mustapha et le temps qui reste » de Geneviève Lefebvre dans la Presse du 6 décembre. Le docteur Mustapha Teffé, je pense. C'est T-E-H-F-E. Coureur passionné et spécialiste des cancers du système digestif et des poumons. M'avait donné rendez-vous dans l'entrée du nouveau centre intégré de cancérologie du CHUM, rue Sanguinette. En bon marathonien qui gruge les secondes pour battre son temps, il est arrivé 3 minutes en avance. La blouse blanche ouverte sur un grand corps sec de coureur de fond, la poignée de main chaleureuse et un sourire si lumineux qu'il en éclairait tout le gris de cet après-midi d'automne. Un sourire qui fait penser à une arche d'arrivée de marathon. Quand t'en peux plus, que tes jambes de béton sombrent dans la défaite et que tout à coup, l'espoir prend la forme d'une structure gonflable en plastique bleu qui te murmure à l'oreille « Tiens bon, tiens bon! » »«
Lâche pas, lâche pas! »
Il a le sourire en forme d'espoir, Mustapha. Ce Libanais qui a fui la guerre de 2006 avec sa femme et ses 2 enfants, ils en ont eu un 3e depuis, m'avoue qu'il s'est tourné vers la course pour trouver du temps. Habituellement, on invoque le manque de temps pour justifier notre sédentarité. Lui, père de 3 enfants, chercheur, conférencier et médecin, c'est dans la course qu'il trouve du temps. Tu vas devoir m'expliquer ça, Mustapha. La course, c'est le temps que je m'accorde à moi. Du temps pour préparer mes journées, pour réfléchir, pour gérer le stress. Au réveil, il révise les dossiers de ses patients qu'il doit voir en clinique ce jour-là. Puis, il chausse ses running et met à profit les 9,7 km qui séparent la maison de l'hôpital. Je pense à mes patients. Si j'ai un cas difficile, chaque pas me permet de réfléchir à ce que je vais lui dire, à ce que je vais lui proposer. Je passe en revue toutes les options et quand j'arrive à l'hôpital, je suis prêt, parce que j'ai pris le temps. Le temps, celui que l'on prend, celui qui reste. Dans le bureau tout neuf, son manteau vert du marathon de Berlin attend sur le dossier d'une chaise. Mustapha est content de me dire que le département d'hémato-oncologie compte 4 marathoniens et que tous les ans, médecins et patients se retrouvent à la même ligne de départ du défi Respire, une course organisée par l'Institut du cancer de Montréal. Quand un de ses patients vient le voir pour discuter de course à pied, ça l'enchante. Quand ils ont mal parce qu'ils reprennent le sport au lieu d'avoir mal à cause de la maladie, je suis content, dit-il avec un éclat de rire. La pratique du sport au quotidien s'infiltre dans notre vie et la change dans ses moindres ramifications. Qu'est-ce que ça change pour toi comme médecin, Mustapha, et pour tes patients? La réponse coule fluide. Quelques semaines avant le marathon de Berlin, je me suis foulé la cheville. J'ai eu peur de ne pas pouvoir le courir. Ça aurait été un deuil. À travers ce que la course fait vivre à mon corps, je reste sensible à ce que mes patients vivent tous les jours, au deuil qu'ils ont à faire, aux souffrances qu'ils traversent, bien pires que les miennes. À Berlin, sa cheville l'a fait souffrir, comme si elle ne m'appartenait plus. Mustapha s'est accroché comme il incite ses patients à le faire. Oui, c'est dur, la chimio. C'est dur perdre ses forces et ses cheveux. Mais 6 mois difficiles pour plusieurs années de vie, ça vaut la peine. Il faut penser à l'objectif. Le sport m'a appris la patience. Tu ne te lances pas dans un marathon à toute vitesse. Tu construis tranquillement ton endurance, ta force. Tu accumules du kilométrage. Et c'est ce qui te rend prêt à prendre le départ. Ça prend du temps. Le temps. Encore lui. Le temps est compté pour tout le monde. La ligne d'arrivée, on va tous la connaître, me dit-il. Mais on doit toujours donner de l'espoir. On n'abandonne pas les gens. On cogne à la porte de son bureau pour le prévenir qu'on l'attend en réunion. Discrètement, il dit « J'arrive dans 10 minutes ». Nous regardons nos montres de coureurs en même temps. Et je sais que nous n'aurons plus besoin de les regarder pour savoir quand les 10 minutes seront passées. Les sports d'endurance fabriquent des chronomètres internes dignes d'une horlogerie suisse. Ce soir, après sa réunion, Mustapha Tefé va rentrer chez lui à la course. 9,7 km pour s'accorder du temps
à lui. C'est vraiment un beau texte.
Alors, il n'y a pas d'excuse. Hein? On ne peut pas dire « j'ai pas le temps de faire mon activité physique ».
Peu importe à quel bout de la journée ou pendant.
C'est ça.
C'est ça.
Merci, Yvan. Alors, on s'en va vers Paris. Un article de Loïc...
Monique à Paris, tiens-toi.
Monique à Paris, pourquoi pas?
Ça fait penser à quelque chose.
Un article de Loïc Chevreau pour la revue Science et Avenir du mois d'octobre 2017 qui s'intitule « Le Paris vert de Paris pour les JO », c'est-à-dire les Jeux olympiques. Alors, pour Paris, la barre est haute. La ville qui a vu naître l'accord historique sur le climat ne peut déroger aux règles écologiques qui prévalent depuis la COP21 de décembre 2015. Elle en a donc pris l'engagement. Les Jeux de 2024, qui viennent de lui être attribués par le Comité international olympique, le CIO, seront plus verts que verts. Mmh. Alors, ces rencontres seront durables, équitables, neutres en émissions de carbone et, bien sûr, propres. En fait, depuis les Jeux d'hiver de Vancouver, au Canada, en 2010, le CIO impose aux organisateurs d'établir un bilan carbone de la manifestation. Londres, en 2012, représente une référence en la matière, puisque pour la première fois, ce bilan intègre, alors écoutez bien, la construction des stades, les émissions des participants et des spectateurs, et aussi la restauration, l'hébergement. On est surpris, hein? Mm-hmm. Mon Dieu, l'hébergement, la fabrication des produits dérivés. Donc, au total, les Jeux de Londres ont émis 3,4 milliards de tonnes de CO2. Alors, à Paris, on nous dit, nous nous engageons à une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre et aussi à la compensation de tonnes émises. Ça, c'est fort intéressant, je trouvais. Soit un montant estimé à 31 millions d'euros qui financeront des projets de reforestation en Afrique. Oh. Donc, objectif affiché, au dernier jour de compétition des Jeux paralympiques, qui clôt toujours, on a toujours les deux sections, les JO de 2024 ne devront avoir en aucune façon aggravé les teneurs en CO2 dans l'atmosphère. Donc, Paris part avec un certain avantage sur Londres, qui était en 2012, et Rio 2016, car seuls 3 sites seront construits. Oui. Il y a la piscine et le village olympique qui seront construits à Saint-Denis et le village des médias au Bourget. Les autres sont soit déjà en activité, soit imaginés comme des infrastructures provisoires. Par ailleurs, la part des voyages sur le résultat global sera moindre que les Jeux brésiliens, puisque les spectateurs qui se rendront à Paris devraient être à 95 % originaires des pays riches de l'hémisphère nord et donc moins nombreux à prendre les avions long courrier. Oups, pardon. Excusez-moi.
Alors, le texte bouge sur l'écran.
Le texte bouge sur l'écran, exactement. Alors, là, je m'excuse, je suis vraiment perdue.
Puis moi, je voudrais vraiment vous aider, mais je ne trouve plus votre texte.
C'est correct. Alors, je disais donc, la biodiversité également ne devrait pas être oubliée. Les trames vertes reliant Paris au département périphérique, et notamment à la Seine-Saint-Denis, devrait permettre de parcourir ces zones très urbanisées en suivant des trajets arborés. Donc, on y aura planté des arbres. Les bâtiments du Jardin olympique seront recouverts de plantes et le parc de la Courneuve s'agrandira de 13 hectares grâce à la renaturation des friches industrielles. Quand même, c'est intéressant de voir toutes ces actions qui se construisent autour de
Concrètes.
Même le plus grand vendeur de boissons aura pour obligation de limiter son usage des bouteilles en plastique et devra accepter que de nombreuses fontaines d'eau gratuites équipent les sites. Les T-shirts seront fabriqués en coton biologique et les objets souvenirs recyclables ou issus de la chimie verte. Vous imaginez toutes les inspections. Il faudrait que je fasse une recherche sur la chimie verte,
c'est ça.
Ensuite, l'alimentation devra être de qualité, bio et locale. Les organisateurs prévoient d'ailleurs à cet effet de reconstituer la ceinture maraîchère de l'Île-de-France en favorisant l'installation d'agriculteurs producteurs de fruits et légumes proches des consommateurs. La maire de Paris, Anne Hidalgo, dont on parle ce matin dans la Presse Plus, mais pas de façon très positive, mais bon, voit dans les Jeux olympiques un formidable accélérateur de sa politique de mobilité. Mais on dit qu'elle c'est très agressif négativement, sa politique.
Son implication, oui.
Alors, il y aura une piste cyclable qui reliera Paris au Stade de France. Donc, l'ambition est de montrer aux milliards de téléspectateurs qui vont suivre les Jeux que Paris est une ville durable, saine et résiliente.
Et donc un modèle.
Un modèle. Suivre. Alors, on leur souhaite bonne chance. C'est quand même beaucoup de surveillance, n'est-ce pas, à mettre en place.
D'ici bientôt, un peu moins de 6 ans, finalement.
Oui, tout à fait.
Ça vient vite quand même.
Oui.
À Paris, sous la pluie, on s'est embrassé. En anglais, on s'est embrassé. Et tu pleurais, mais rien n'a paru. Tes larmes sont disparues avec l'air. Adresse.
Il s'appelle Pascal Lejeune et sa chanson, c'est « Bilingue en Paris ».
Alors Marie, un petit mot d'enfant.
Un petit mot d'enfant. Brosse à dents. Selon Amandine, 3 ans et demi, c'est un peigne pour se coiffer les dents.
Oh là là, c'est trop joli ça. Alors Yvan?
La météo maintenant.
Oui.
Ça s'intitule « Le temps qu'on veut » pour rester dans mon thème de la journée. La dernière pleine lune s'effrite comme si un chaton gourmand croquait dedans sans ménagement. Complice, les nuages s'imposent devant elle, cachant sa déformation. Plus tard, derrière cette même couverture céleste, un grand cercle jaune tente de prendre la scène, de faire plisser les yeux et de faire changer de trottoir les marcheurs en quête de chaleur. Il y a des jours où le jaune dans le ciel paraît plus grand et plus beau. Dans une vitrine de boutique, un Père Noël en tissu mou dort sur une chaise. Tout à côté, le reflet de nous semble le courtiser, sourire.
Oh, que ça, c'est joli tout ça. Alors, comme mes collègues avaient leur petit livre dédié, alors j'ai décidé de parler des capsules, de reprendre en fait des capsules linguistiques de notre cher Guy Bertrand. Alors, j'ai commencé par celle-ci qui s'intitule « Une graffinure est-elle plus sérieuse qu'une égratignure? »
Moi, je pense que oui.
Ça fait plus mal.
Ça fait plus mal. Mais écoutez, le verbe « graffiner » et qui est encore très vivant chez nous, est considéré comme archaïque dans les autres pays francophones.
Tant pis pour eux.
Ah, ben c'est ça. Mais bon, on peut utiliser, c'est sûr, graffiner dans la langue familière, mais dans la langue soutenue, il est toujours préférable d'avoir recours à des équivalents plus modernes, comme égratigner, érafler ou écorcher. Donc, au lieu de dire « j'ai graffiné mes lunettes », on devrait dire « j'ai égratigné mes lunettes ». J'ai graffiné le bout de mon soulier, j'ai
éraflé.
Voilà, vous avez gagné le bout de mon soulier. Et finalement, je me suis graffiné le genou en tombant, je me suis écorché le genou en tombant. Et bien sûr, on peut toujours remplacer graffinure par égratignure, éraflure et écorchure.
Ou pas.
Ou pas.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de vos classiques, mesdames?
Ça dépend lesquels.
Le record de Phileas Fogg, le héros du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, a été battu par l'Écossais Mark Beaumont, qui a réalisé un Tour du monde à vélo de 29 000 km en 78 jours, 14 heures et 14 minutes. L'athlète devait pédaler une moyenne quotidienne d'au-delà de 370 km, soit plus de 16 heures pour accomplir son exploit tous les jours pendant 78 jours.
Alors, incollable Néandertal, l'invention de la colle serait apportée au crédit du Néandertal. Ah, on ne savait pas ça. Selon des chercheurs allemands, pour assembler ses armes, il aurait eu l'idée de fabriquer une sorte de colle à partir d'écorce de bois de bouleau ou de pin. Il y a 100 000 ans, un rouleau d'écorce jeté dans les cendres chaudes pouvait produire assez de substances collantes pour fixer un manche en bois à une lame de silex taillée. Et pour ce faire, il fallait simplement le chauffer entre 300 et 400 degrés Celsius.
Et c'est tout. J'ai le temps pour un petit mot d'enfant. Il va faire froid. Chandail. C'est un pull que je dois mettre à chaque fois que ma maman a froid, selon Manon, 6 ans. Et selon Constance, 5 ans et demi, c'est l'autre nom d'un pull hiver.
Mon Dieu! Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Marie, notre prix Raymond Charrette. Merci à Yvan, notre sportif, bien sûr, de tous les sports. Et merci à Mathieu pour sa musique.
Et merci Monique!
On vous retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Au revoir.
Au plaisir!